Vous écoutez le Libre Journal des Beaux-Arts, émission créée par Christian Langlois et dirigée par Michel Colombin, diffusée en direct sur Radio Courtoisie, mardi 13 avril 2021, de midi à 13h30 et réalisée par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Ludmila Guillemot et Jean-Noël Dubois, tous les deux concertistes de piano. Le titre de l'émission, Envolée pianistique. Et après, viendra nous rejoindre François Fournet. Donc, Ludmila Guillemot.
Bonjour aux auditeurs de Radio Courtoisie. Je suis ravie d'être ici pour partager ces moments à travers notre album Parfum d'escale.
Donc, le piano, c'est toute une histoire, c'est une grande histoire d'amour.
Pour moi, c'est comme Astérix, hein. Je suis tombée dans le piano, dans le potage.
Toute petite.
Je pense que j'ai déjà écouté des battements du ventre de ma mère à l'âge de 2 mois, je pense. Et la fibre artistique et le piano étaient en moi dès ma naissance. Je criais pour dire « piano, piano !»
Il y avait des gens de votre famille qui étaient
ma mère
dans la
est
musique.
Musicienne, chef d'orchestre à la base.
D'accord.
Et donc, elle a fait beaucoup de directions d'orchestre, notamment à La Rioja, à Logroño. Et elle avait aussi l'orchestre de la cité universitaire. Et elle a eu comme professeur eh bien, Pierre Dervaux et Igor Markevitch, hein, des grands noms de l'orchestration. Et elle a D'accord. été donc élève de ses grands maîtres. Et après, bien sûr, elle a pu avoir des orchestres avec toute la passion qu'elle m'a transmise.
Mais il y avait la grand-mère aussi.
Oui, alors il
la
y avait...
La grand-mère Felicia Torresilla.
Voilà, Felicia Torresillas, ouais. Qui est une grande mélomane de la musique classique et aussi de la musique de la Jota en Espagne. Et c'était une grande mélomane de la musique classique. Et elle passait des heures à m'écouter sur son fauteuil, des œuvres de Liszt, de Chopin. Et elle était toujours émerveillée par rapport à tout ce que je transmettais. Par rapport à elle et surtout la musique espagnole, hein, bien
D'accord.
entendu. Hein.
Mais alors, bon, vous avez commencé le piano à l'âge de 4 ans. Et ça a été tout de suite percutant pour vous.
Ah, ça a été tout de suite parce que.
À l'âge
moi,
de 4 ans, parce que 4 ans, c'est quand même très jeune, quoi. Hein.
Il n'est jamais trop tôt pour commencer l'instrumental que le piano.
Mais
hein.
Je veux dire, bon, la plupart des concertistes commencent très, très, très tôt le piano.
Bien entendu.
Et qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette fibre. Cette fibre pianistique qui vous pénètre tout de suite.
Je pense que c'est inexplicable. La sonorité du piano m'a tout de suite fait vibrer et j'ai ressenti la musique en elle-même et surtout j'ai entendu pour la première fois un disque de Sifra passer dans ma chambre et ce disque de Sifra, eh bien, ça m'a tout de suite, je sais pas, j'ai entendu ça. Je voulais faire du piano à 4 ans et ça a été inné et il y a eu une fibre de une fibre artistique par rapport à l'émotion des œuvres qui étaient jouées dans cette écoute-là. Et tout de suite, j'ai ressenti avec sensibilité la sonorité du piano et c'est ce que je voulais faire. Et ça ne m'a jamais quitté. C'était en moi et c'est inexplicable. C'est une fusion qui se passe quand on entend un instrument. Et là, ça ne m'a jamais quitté en fait, hein.
Jamais,
ça a toujours été d'instinct et je pense que j'étais faite pour être pianiste et pas autre chose.
Le piano.
Le piano et toujours. Voilà. Et c'est vrai.
C'est magnifique.
Même
c'est...
aujourd'hui, je ne peux pas passer une journée sans piano. Sinon je
tous
deviens...
les jours, vous jouez là.
Tous les jours, sinon je deviens folle. Hein. Je suis quelqu'un qui vit pour le piano, pour transmettre. C'est ma raison de vivre, hein, comme était George Sand, qui avait besoin de l'écriture pour vivre et pour être, comment dirais-je, vivre mieux.
Tous les artistes, en fait, tous les vrais artistes, quel que soit l'art qu'ils pratiquent, vivent leur art à fond. Hein,
absolument, on ne peut pas vivre sans et vivre autrement, ça serait...
On
ne
peut pas vivre à moitié de son art.
Absolument.
Je veux dire, il faut se donner...
Ça ne peut pas s'expliquer, je pense que c'est dans les veines et la musique, c'est plus fort que soi.
Et là, vous avez été remarqué par un grand professeur, Yvonne Desportes. Desportes.
Voilà, Yvonne Desportes qui a été un très grand compositeur, qui a eu le Grand Prix de Rome et qui a eu plus de 3000 élèves. Hein. Et j'ai pu commencer avec elle toute l'orchestration, l'harmonisation, la fugue, le contrepoint. Et j'ai travaillé avec elle pendant 10 ans. Hein. Comme ma seconde grand-mère, en fait. Hein.
Et à quel âge, là, vous avez commencé les cours chez elle?
Moi, j'ai commencé quand j'avais 12 ans avec elle. Hein.
Alors, de 4 à 12 ans, qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, de 4 à 12 ans, ben, j'ai fait le conservatoire.
Ah, oui,
j'ai travaillé avec le maître Magda Tagliai Ferro, hein, qui est un très grand professeur de la musique brésilienne. Et donc, j'ai travaillé avec elle. Et ensuite, j'ai fait l'audition avec Gorgui Sifra. À l'âge de 14 ans. Hein. Là, je me souviens très bien de cette anecdote. Donc, il y avait une audition, il y avait une centaine de pianistes. Et ce jour-là, je suis montée sur scène. Je n'avais même pas de trac ni rien. Je me suis cassée la figure parce que je suis montée. Et j'ai atterri sur son grand piano Yamaha. Et Sifra m'a fait un clin d'œil. Et pour moi, c'était un monstre du piano.
Oui.
Mais imperturbable, moi. Et donc j'ai joué le Carnaval de Vienne de Schumann et une autre d'œuvre de Liszt. Et là après, je reçois un mois après une réponse que je suis admise dans son académie, hein, Franz Liszt. Et pour moi, ça a été la consécration, hein, puisqu'il me mettait dans les jeunes talents pour lancer ma carrière artistique.
Donc
Sifra, c'est quand même un monstre de la musique hongroise, Franz Liszt.
Pianiste hongrois. Hein.
Ah, bien sûr. Hein. Donc, Jean-Noël peut-être nous parler de.
Jean-Noël
va nous.
Alors, Jean-Noël Dubois, en face de moi, qui est aussi concertiste, qui joue avec Ludmila, a un parcours un peu plus décalé que Ludmila.
Alors, déjà, bonjour Philippe, bonjour Ludmila, et bonjour chers auditeurs.
Oui.
Oui.
Oui. Vous pouvez nous parler de votre parcours un peu. Vous avez commencé par le piano, mais après vous avez arrêté un peu ou...
Ah bah moi j'ai parcours. On est tous les deux des parcours très atypiques.
Oui.
Ludmila a parlé du ventre de sa maman. Moi non, mais les souvenirs que j'ai, c'est que je jouais du piano que je connaissais pas du tout sur une table, tout en écoutant des disques de musique symphonique. Il faut quand même le faire. Donc c'était. C'est ma mère qui me le raconte, moi je ne me souviens plus très bien. Je sais que je suis allé prendre des cours chez une vieille dame, mais qui ne m'a plus voulu parce que je voulais coucher avec elle, à 6 ans. Donc,
oh là là là.
Mais elle était un peu vieille fille, elle avait, je sais pas, elle était adorable, après je suis allé la revoir. Mais bon, ah oui, puis je disais qu'elle jouait faux, alors ça je crois que c'était le pire
oula,
pour elle.
Bien ça, une
donc, je me rappelle très bien, c'est le final de Sonate Octave de Lune qu'elle jouait, et... Il devait y avoir une petite fausse note, alors j'avais déjà l'oreille quoi, musicale. Enfin, bon, comment résumer mon parcours? En fait, c'est plutôt autodidacte.
À quel âge vous avez commencé le piano déjà?
Eh ben, j'ai commencé à 6 ans.
Ouais.
6 ans, 7, 8 ans, j'ai dû prendre des cours avec Mademoiselle Bray, donc cette fameuse personne. Je ne disais pas la musique, je faisais tout à l'oreille.
Ah oui, ça c'est...
Et j'ai dû faire deux ans au conservatoire de Limoges, mais je suis rentré par la grande porte, je suis sorti par la petite. ça ne me convenait pas, le conservatoire. J'avais une prof
pourquoi
abominable.
Et pourquoi?
Parce que je pense que j'avais une prof qui m'avait donné plein d'envie pendant 2 ans, et Madame Murez, Pulcini, qui est d'ailleurs pour la petite anecdote, sa belle-fille a été la prof de flûte de ma fille, c'est assez la boucle est bouclée quand même. Et du coup, après, j'ai dû changer de professeur parce qu'elle, soi-disant, pas les diplômes pour enseigner plus loin. Et puis après, je suis tombé sur une... Vous savez, le conservatoire, c'est... l'archétype de ce qu'il ne faut pas faire avec les élèves, c'est-à-dire leur donner des gammes, des machins, des exercices, des bacs, des trucs. Enfin, il y avait tout un programme comme on se croirait dans un truc de Jeux Olympiques, quoi. Mais pas du tout de musique. Donc moi, j'ai joué ce qui me plaisait et j'ai arrêté.
Oui, parce que vous jouiez avec à l'oreille aussi.
Oui, ben là, je commençais à prendre un petit peu les notes. Il fallait bien. Il y a tellement de notes à mémoriser que c'est impossible autrement. Mais j'avais toujours ce handicap. Mais du coup, j'avais une très bonne mémoire musculaire et auditive. Et j'ai continué chez moi. Mmh. Et un jour, à 20 ans, je me rappelle, je jouais sur... Mon père était dentiste. Je jouais au dernier étage, j'avais un piano. Et sur la table, il y avait un prof, c'était un ami de mes parents, enfin directement, et il dit, mais qui c'est qui joue comme ça du piano? Et mon père dit, ben c'est mon fils, il fait des études de chimie. Ah bon, il n'est pas pianiste? Il me dit, pas du tout. Et donc, il a voulu m'écouter, et il m'a fait rentrer à Versailles. Et après, ça a été Monsieur Coulot, voilà, Jacques Coulot, Reine-Elisabeth de Belgique. Enfin, c'était un grand pianiste aussi, un grand prof. Et après, bah, j'ai travaillé avec Sancan, Xifra. Après, ça a été très vite, hein, les prix.
Vous avez travaillé avec Xifra aussi?
Oui. Plus tard, là, quand j'ai préparé le concours France Liszt. Et j'ai gardé bon, tout le temps le contact avec lui, avec Sancan aussi, bien sûr, plus épisodiquement, parce qu'il souffrait d'Alzheimer. Mmh. Et puis voilà, c'était mes grands maîtres avec Jacques Coulot. Moi, je n'ai pas beaucoup de professeurs, mais des bons, quoi.
D'accord, ouais.
Chacun m'a apporté des choses différentes, voilà.
Mais en fait, entre vous et Ludmila, la méthode d'entraînement est différente.
Ah, complètement. Enfin, moi, je pense
que Ludmila joue tous les jours beaucoup d'heures.
Alors, moi, j'ai passé mon enfance à travailler avec acharnement, c'est-à-dire, moi, je commençais à 6h du matin et puis je pouvais finir à minuit du soir. Je pouvais enchaîner jusqu'à 18h de piano à un moment.
Hein. Oh là là,
Je sais que je mangeais avec un plateau sur le piano, je mangeais en 10 minutes et j'enchaînais. Hein. Moi, je commençais très, très tôt et jusqu'au soir, je faisais du piano. Mon père partait très tôt au travail à 5 heures du matin et puis il m'entendait quand il arrivait à minuit le soir, il m'entendait encore au piano.
Alors, en fait, il y a beaucoup d'entraînement aussi, de gamme à faire.
Oui, il y avait beaucoup de gamme, il y avait beaucoup d'exercices, beaucoup de morceaux et j'ai beaucoup étudié de répertoire hein, parce que je tiens peut-être 1000 œuvres au niveau pianistique. J'ai étudié beaucoup de répertoire, beaucoup de compositeurs. J'aimais découvrir, j'aimais déchiffrer, donc je n'arrêtais jamais, hein, 7 jours sur 7.
C'est incroyable.
Et pour moi, les vacances, le mot vacances, je détestais le mot vacances, et même aujourd'hui, je déteste le mot vacances, parce que pour moi, une journée sans piano, non mais une journée sans pratiquer, pour moi, c'était impensable.
Même
aujourd'hui, le mot vacances, ça m'effraie.
C'est incroyable.
Je cours à toute vitesse pour pas
entendre
ce mot-là.
Et Jean-Noël, pas du tout.
Je suis atteint de...
Ah, les vacances, j'aime pas trop ce mot. Non, mais moi, je suis pas du tout dans ce cas de...
Pas dans la même architecture.
Non, parce que moi, j'avais d'autres passions que la musique. La musique, c'est une grande passion que j'ai, mais j'adore l'enseignement, j'adore la chimie. Je veux dire, moi, je suis pas un boulimique de piano. De toute façon, mon prof m'a toujours dit, moi, j'ai commencé le piano tard, sans qu'on me disait. Il a fallu que je me débrouille pour rattraper tout ça. Et j'ai travaillé dans le minimum de temps, ce qu'il fallait rattraper. Donc, jamais travailler pour rien. Et du coup, moi, je travaille très peu.
Pour moi,
2-3 heures par jour, 4 heures. Au maximum, j'ai dû faire 7 heures quand je passais les concours internationaux. Mais les autres faisaient 14-15 heures. C'était des fous. Et malgré tout,
vous êtes concertiste quand même.
Parce qu'il faut, je pense que oui, il n'y a pas besoin de travailler beaucoup. Ça dépend d'abord de ce qu'on travaille. Si je répétais n'importe quoi pendant 12 heures, ben, on n'apprend rien. Donc il y a l'entraînement qu'il faut faire, effectivement, mais il y a pas...
Il y a beaucoup d'exercices au piano.
Mais de toute façon, je pense qu'un instrument comme le piano, on ne peut pas le faire moins de 8 heures par jour, au moins pendant 10 ans. Un instrument, c'est quand même beaucoup d'années, au moins 10 ans.
C'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas les heures qu'on y passe, c'est plutôt la passion qu'on y met et le...
Voilà.
Jean-Noël.
Il y a un minimum, effectivement, je pense. Après, le nombre d'heures, c'est le répertoire qui va se monter. Mais ce n'est pas...
De toute façon, moi, j'ai toujours été une travailleuse acharnée, sans me vanter. Mais j'aime travailler et ça, c'est. Je tiens de cette force de mon père, hein, qui était un cuisinier aussi hors norme de la cuisine française. Et je pense que je ne l'ai pas beaucoup vu hein, par son travail, mais par rapport à lui, j'ai son dynamique, son travail,
le travail avec la labeur.
Absolument, je tiens de mon père, ça c'est
sûr. On pourrait déjà, Ludmila. Vous avez fait un disque.
Alors là, on vient de sortir
un album. Là.
Un album sur la musique russe. Hein.
Sur la musique russe.
Hein. Donc,
essentiellement sur la musique russe.
Essentiellement sur la musique russe, parce que mon nom, c'est Ludmila, et on tient de ce nom de l'opéra de Rushmila, et bien de Glinka.
Glinka. Ah, voilà. On peut écouter un morceau que vous interprétez,
oui.
La danse du sabre.
Ah oui, ça c'est une œuvre chère à moi-même, cette œuvre magistrale.
D'accord, on va l'écouter tout de suite. Ludmila, œuvre très dynamique.
C'est une œuvre avec un tourbillonnement, un petit peu comme mettre le public en transe, comme les derviches tourneurs. Ça tourne. Et pour moi, c'est une œuvre très célèbre par son thème chromatique. Et surtout, c'est notre répété en staccato qui met le pianiste eh bien, dans un état de derviche tourneur.
Staccato, ça veut dire ?
Eh bien, des notes très piquées par le poignet et de manière très rapide.
Alors là, c'est un entraînement qui demande des heures et des heures de travail.
Eh bien, comme je vous ai dit, hein, toutes ces heures travaillées dans ma jeunesse, eh bien c'est fait que on voit le résultat quand même. Hein.
Ben oui.
Et vous avez entendu aussi ce deuxième thème très lyrique.
Oui, à la fin.
Hein,
à
que
la
Jean-Noël fin. Va nous chanter.
Jean-Noël, Jean-Noël.
On ne se moque pas de mon chant.
Ce thème eh bien, a fait de nombreuses adaptations eh bien, dans le monde du cinéma et aussi dans le domaine de la musique populaire, hein, entre autres. Hein.
Et alors, en fait, il y a une époque où tous les deux vous vous êtes rencontrés.
Oui.
Comment ça s'est fait, en fait
Alors, ça, c'est
assez... Vous connaissiez pas du tout ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Mais alors, Jean-Noël va vous expliquer notre rencontre qui est un petit peu spectaculaire.
Alors, toi, je ne sais pas ce que
Gérard... Moi, je pense que ça peut être...
Ah oui !
Voyons !
Eh bien, alors, en fait, moi, je vais chez mon ami qui s'appelait Gérard Tardieu, malheureusement, qui est décédé, qui était facteur de piano. Je venais souvent essayer ses pianos. Il me dit, oh, bah, tiens, tu devrais venir à l'exposition que je fais à Angoulême, là, sur les pianos. Il exposait des pianos. Il y avait une grande exposition d'artisans d'art. J'ai une amie qui devrait bien t'entendre avec elle, qui s'appelle Ludmila et qui est pianiste. Donc j'ai dit, ok, je viendrai. De toute façon, je serais venu même sans ta pianiste. Hein. Et moi, je m'attendais, Ludmila, comme vous, à voir une pianiste russe, une petite poupée russe piano.
Bah, Ludmila, oui.
Voilà. Et je vois arriver avec deux valises, hein, plutôt une grosse camionneuse avec ses ballots. J'ai dit, tiens. Je dis, bah, c'est pas elle, alors ça peut pas être elle. Elle me dit, si, tiens, je te présente Ludmilla. Je dis, ah bon, d'accord. Alors on dit, bah tiens, elle me dit toujours, bah qu'est-ce que tu joues? Alors je dis, bah on peut jouer une danse hongroise. Alors on se met au piano, sans partition, on joue. Oh, c'était super.
À quatre mains, tout de
suite. Oui, à quatre
tout
mains direct.
Oui, tout de suite.
Ah, c'est pas facile, ça.
Ah non, mais c'était l'osmose parfaite.
Voilà, alors on déchiffre une autre. Bon, on dit, oh là là, c'est super d'être comme ça en phase. Alors après, on se parle, elle me dit, qu'est-ce que tu travailles? Alors elle se met à me jouer une œuvre contemporaine qui s'appelait Pégase de Dutilleux. Alors là, c'est une œuvre, comment dire, il y a beaucoup de forte, beaucoup de parties où il y a du physique vraiment d'avant-bras, et le piano commence à bouger et à se désosser. Je ne sais pas comment vous expliquer. Bah oui, c'était un piano ancien, donc là, il a... Le
pupitre, à se désosser physiquement, vraiment?
Oui, physiquement. Donc, il y a eu le pupitre qui est tombé. Bah oui, c'est ça qui était assez drôle.
Incroyable.
Alors, j'étais avec, à la fin, je me suis trouvé avec la main qui tenait le pupitre, le pied, parce que la trappe du truc s'était détachée, et le piano qui avançait sur scène, que je devais maintenir, parce qu'il y avait des spectateurs qui étaient arrivés entre-temps.
Voilà.
Donc, à la fin, bah, tout le monde applaudit, évidemment. C'était déjà le concert.
Ah bah là, c'est déjà...
Elle s'est rendue compte de rien. Elle ramasse ses partitions, elle s'épanche de front, et tout le piano se désosse quand je...
Mais c'est possible, ça.
Oui.
C'était une œuvre... C'est Malin de Jolivet, et c'est une œuvre...
Pégase, ça, je m'en rappelle, Pégase, de Pégase. Hein, le piano s'est envolé en morceaux, là. Oui.
Qui va avec des accords, et puis on finit avec les poings.
C'était un piano volant, c'était pas un cheval. Donc voilà, la rencontre, c'était drôle. Et du coup, on ne s'est pas remis à travailler forcément tout de suite, parce que moi, j'étais enseignant, j'étais prof. À l'époque, j'avais pas non plus d'envie spéciale de faire des concerts. Mais oui, après ça, on a rejoué et on a décidé de faire des choses ensemble. Voilà. 4 ou 5 ans après, je crois.
Voilà. Et après, on a commencé à faire des récitals. Et puis, surtout, il y a des tournées à l'international.
Oui, mais alors à ce moment-là, en faisant faisiez du quatre mains. Il faut répéter à quatre mains tout le temps. Il faut vous voir souvent.
Mais déjà, moi, à la base, j'avais déjà un répertoire pianistique à quatre mains assez conséquent, hein, parce que je jouais aussi avec ma sœur jumelle à l'époque aussi. Et donc, j'avais travaillé tout un répertoire, œuvres les plus connues, toutes les danses de Brahms, les Franz Liszt, etc. Et ensuite, lui aussi, il avait aussi une richesse du répertoire à quatre mains. Donc, on a fusionné tout ça. On se voyait,
c'est-à-dire qu'on, c'est pas parce qu'on ne faisait pas de tournée à l'international ou qu'on ne jouait pas ensemble qu'on ne se voyait pas de temps en temps, donc on répétait.
Voilà.
Mmh. Voilà.
D'accord.
Mais on est parti après sur un disque d'Éric Satie, hein, lui ai fait connaître ce grand maître de la musique française.
Mmh. Enfin, je connaissais le comme tout le monde, Éric Satie, les Gymnopédies, voilà, mais d'accord, absolument pas la musique. Autre qu'Éric Satie, qui est absolument assez atypique et très, très intéressante à écouter.
Alors, j'ai deux messages là. Attendez voir. Alors c'est un monsieur. Alors, madame, messieurs, votre passion transparaît dans vos propos. Et c'est là, et c'est par là que votre émission est touchante.
C'est la vôtre émission.
Bah oui,
c'est... Et voilà, et bah, c'est super. C'est madame, qui nous écrit ça très gentiment.
On c'est a un monsieur. Non, non, on n'a pas de.
Voilà, bah, elle se reconnaîtra, la dame.
Et alors, après, il y a une question. Donc, est-ce que la danse du feu est du même compositeur que la danse du sabre?
Alors, non.
Vous connaissez la danse du
feu? C'est de Manuel de Falla, la danse du feu. Ben, va vous en...
Alors, Manuel de Falla, c'est un compositeur espagnol.
Voilà, tout à fait. La danse du feu, c'est la danse espagnole de Manuel de Falla, qui n'est pas du tout pareil que la danse
de Cachatourian. Mais au de l'écoute, c'est pas du tout la même chose.
Ah non, pas du tout. Hein. Il va peut-être nous chanter un petit air.
Alors, c'est... Au niveau, effectivement, évocation, ça, c'est ce côté sacralisation d'un thème, mais c'est vrai qu'au niveau écoute, il y a quand même ce côté très hispanisant qu'on a dans De Falla, qu'on n'a pas du tout dans la musique de Cachatourian.
Alors, en parlant de compositeurs, de piano, Manuel de Falla, bon, c'est un pianiste, hein,
oui.
Mais la musique russe, Est-ce qu'elle est beaucoup plus riche au niveau, elle est plus riche au niveau des compositeurs? Il y a beaucoup plus de compositeurs
plus
chez les Russes.
De compositeurs chez les Russes. En Espagne, il y en a moins. Effectivement, puis la particularité de l'Espagne, ça va être plutôt les rythmes et les modes qui sont un petit peu différents. Il y a le mode andalou, enfin les modes plutôt du sud. Et en Russie, ça va être plutôt des modes orientaux. Et voilà le
parce
point
commun. Ce qu'il ne faut pas enlever, par exemple, en Russie, bon, il y a, comme en Espagne, c'est la musique aussi. Est-ce que la musique folklorique a apporté pour la musique classique en Russie, par exemple?
Ah ben dans tous les pays, de toute façon.
Dans tous les pays,
je parle du principe que la musique populaire, s'est implantée dans le classicisme automatiquement, déjà par la culture des compositeurs qui instinctivement retranscrivent ce qu'ils entendent, et puis par volonté déterminée de le faire. Il y a eu des compositeurs qui ont écrit carrément, déjà chez Bach, il y a Menuet dans ses pièces, donc c'est bien Menuet à la française, Gigue, déjà chez Bach. Par la suite, ça n'a fait que continuer. Dans la musique romantique, ça a continué avec Grieg, les danses norvégiennes, des pièces, des polonaises de Chopin, des mazurkas.
Ça vient de la musique populaire.
Des
en fait.
Écossaises. Bah oui, on prend carrément le nom de la danse pour donner titre à son œuvre. Et puis même quand ce n'est pas spécifié dans le titre, on entend très bien des chansons populaires.
Parce que Grigori Zifra, je prononce bien.
Georgi.
Georgi. Il est originaire d'une famille musicienne cigane, lui.
Oui, voilà. Il y a toute cette culture en
toute
plus à la base.
Toute cette culture cigane qui...
Mais lui n'est pas compositeur. Il a transcrit, mais il n'a pas composé de la musique. Il l'a interprété.
D'accord.
Mais bon, on parlait des compositeurs.
Des compositeurs,
voilà. C'est ça, qui sont partis de leurs origines ethniques et culturelles Et ça se traduit dans la musique, obligatoirement.
Oui, on peut parler notamment de Johannes Brahms, qui a été très imprégné par la musique tzigane, notamment.
Tzigane, qu'il entendait par exemple Brahms. Entendez l'exemple de Brahms, c'est assez flagrant. On dit les danses hongroises de Brahms. Absolument pas. C'est les danses hongroises de Reminki, enfin de plein de gens qu'on ne connaît pas. Brahms était simplement à la taverne où ces gens se produisaient.
Oui.
Il était là avec sa chope de bière. Il écrivait ce qu'il entendait, comme on aurait enregistré sur le portable. Là, on serait accusé de plagiat et on irait en prison. Brahms, il les a écrits. Il a bien dit qu'il ne fallait pas que ça s'appelle de lui, mais on a continué à les éditer sous les danses hongroises de Brahms. Je crois qu'il y en a une ou deux qui a doit y avoir un petit patte de Brahms où il a...
Mais alors, il écrivait la musique en l'entendant.
C'est-à-dire, ce qu'il entendait, il l'écrivait.
Il écrivait des notes, quoi.
Bien sûr. C'est les musiciens, c'est ça. Hein. Un vrai musicien, il est capable maintenant d'écrire ce qu'il entend.
Oui, il pouvait écrire des parties lentes, mélancoliques, des parties rythmées.
C'est l'oreille.
Est-ce que vous êtes capable de le faire, vous, ça?
Oh, faut de l'entraînement. Oui, je serais capable, oui.
Et Ludmila?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai une oreille absolue. Donc, tout ce que j'entends, je l'écris sans
aucun problème. Faut pouvoir l'écrire en... Mais je veux dire...
En clé de fa, en clé de sol.
Là, je schématise, mais il venait régulièrement dans les bars. Donc, technique d'écriture, on prend en temps réel, mais ce n'est pas possible si on veut faire toute l'écriture. Donc, il écrivait ce qu'il entendait, il mettait des codes pour les basses, il écrivait les accords pour le truc, et chez lui, il refaisait la partition, parce qu'il la connaissait par cœur dans la tête.
Et je pense aussi que toutes ces soirées, eh bien, dans ces cabarets, Brahms était inspiré par ces groupes tziganes, et dans ces cabarets, ça leur permettait aussi d'être inspiré par le lieu, et pour transcrire toutes ses œuvres.
Et il y avait son ami, en plus, qui jouait, Joachim, qui jouait dans ces groupes.
Alors, quand vous écoutez... Une composition, par exemple, de Chopin. Chopin, c'est un très grand pianiste. Vous écoutez la composition de Chopin, quand vous voulez l'interpréter, vous allez être au plus près de la composition de Chopin.
C'est-à-dire, Chopin, c'est un compositeur, pas un pianiste.
Oui, c'est un compositeur.
Voilà, oui.
Oui, mais après, à l'interprétation, quand vous allez interpréter Chopin, vous allez faire en sorte d'être au plus près de sa composition à lui.
C'est-à-dire qu'il a écrit une partition, donc déjà on fait les notes.
Oui, mais après
il y a l'interprétation. Mais il y a l'interprétation.
Je ne comprends pas bien ce que vous voulez.
L'interprétation.
Oui.
L'interprétation, vous allez être au plus près de ce qu'a fait Chopin.
On va essayer de s'en inspirer, bien sûr. Par exemple, quand je joue une œuvre de Franz Liszt, Je ne me mets même pas à l'idée de comment il a écrit. Je la ressens comme si
voilà,
j'étais avec le compositeur.
Voilà, la question, c'était est-ce que, comment savoir comment on, ressentit, comment on a interprété un compositeur. C'est ça la question, finalement. Eh bien, en fait, déjà, il faut avoir joué beaucoup de ses pièces, c'est-à-dire les trois quarts de son œuvre, à toutes les périodes de sa vie.
Ah, voilà,
comprendre déjà le personnage, c'est, moi je dirais c'est un peu comme le vous travail rentrez, d'acteur.
Vous rentrez dans le personnage en fait.
Un petit peu, il faut comprendre son, l'époque pour vraiment être dans, dans le, au plus près, hein, puisque ce n'est pas des enregistrements, c'est que des lettres, des témoignages, de plein de choses qui vont faire que. Comment disait-il d'interpréter cette passe, cette passage à une élève ? Sauf que les élèves, eux, c'est des caricatures, donc il va peut-être dire de jouer moins fort alors qu'il faut jouer fort. Enfin, il y a plein de choses à tenir en compte, et une fois qu'on a un petit peu cerné le personnage, eh ben on essaye d'avoir cette approche-là. Mais sur Chopin, il y a eu plein d'inepties qui ont été dites. Hein. On a dit, oui, c'est quelqu'un de très malade, de très fragile, il faut jouer ça très très fin, très très presque efféminé, alors que c'est complètement faux.
Oui, il était quand même très malade.
Oui, mais c'est pas quelqu'un, c'est pas la tafiole du coin, je veux dire, en jouant avec maniéré, avec des trucs partout. Enfin, cette musique, le problème, c'est que se prête à toutes les caricatures de la musique romantique, y compris chez Schumann. On peut arriver à faire des choses complètement dénuées de la trame de base. Donc, faut se méfier, faut pas aller dans des chemins qui, à mon avis, sont pas. Chopin, c'était quelqu'un effectivement de nostalgique, c'est sûr, comme Tchaïkovski dans sa musique, ça se ressent, mais c'est pas quelqu'un qu'il faut jouer maniéré avec du rubato partout, forcément, et c'est du chant, c'est sûr, à la main droite, et de l'accompagnement libre. Voilà, ça doit paraître improvisé, Chopin. Rien ne doit paraître écrit. Pour moi, ça c'est clair. C'est quelqu'un qui écrivait beaucoup à l'instinct, il jouait beaucoup sur son piano, il écrivait ce qu'il jouait.
Ah, d'accord, ouais. Et vous avez fait donc cet album sur la musique russe. Vous venez de le sortir, là.
Alors, il vient de sortir et c'est un voyage pour poser bien en Hongrie, parce que c'est le berceau de Franz Liszt et de mon maître Gorgui Szifra.
Vous êtes allé en Hongrie faire l'album ?
Non, il a été enregistré pendant la période de confinement, puisque nous, les artistes, on a été privés de beaucoup de concerts.
Ah oui.
Donc, et là, ça nous a permis de se poser quelques mois, hein, car moi, je parcours le monde depuis très longtemps.
Hein.
Oui, une soixantaine. Et là, avec ma rage de vaincre, et je n'ai pas du tout aimé cette période de confinement, parce que j'aime transmettre, voilà, qui aime.
Qui aime,
j'aime aller
moi,
voir
j'aime pas,
d'autres ethnies, j'aime visiter des villages de par le monde, amener la musique autrement et par ma passion, hein, et c'est pour ça que je fais aussi beaucoup de causes humanitaires, et donc cela nous a permis de nous poser et de choisir un répertoire qui mêle la musique populaire, la musique entre autres tzigane avec Johannes Brahms et la musique des nouveaux horizons comme la Hongrie, la Pologne, et tout ça entremêlé de danse, de valse, de mazurka, des impromptus, des polonaises.
Et la Norvège.
Et surtout les chants russes traditionnels. Par exemple, comme Kalinka.
Kalinka, oui.
Qu'on peut peut-être écouter
oui,
ensuite.
Alors,
donc, c'est un voyage et on a voulu donc faire de ce disque et un voyage d'Europe centrale. Avec cette identité qui unit la musique populaire à la musique savante, notamment.
Alors, je rajouterais juste une petite chose sur ce disque. C'est qu'on a voulu que ce soit en fait un voyage un peu onirique. Avec vous ne voyez pas la pochette, mais c'est vrai qu'il y a un petit parfum oriental avec nous deux en cosaque. Et en fait, on fait tous les pays comme ça, qu'on survole. Hein,
vous faites souvent tous les deux ensemble.
Ah oui, on fait tous les deux ensemble. Là. On ne joue pas toujours tous les deux ensemble. Il y a des quatre mains, il y a des solos, et il y a même avec orchestre. Et bien là, je vous propose d'écouter Kalinka, la pièce numéro 1 du disque.
Kalinka, alors. Kalinka.
Voilà.
Thank you.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc, le thème de l'émission, c'est Envolée pianistique. Vous l'avez bien compris, donc je reçois deux concertistes, Ludmila Guillemot et Jean-Noël Dubois. Jean-Noël, vous voulez nous parler de... Donc déjà, c'est une interprétation, vous deux, à quatre mains. Hein. C'est ce qu'on vient d'écouter là, à l'instant. Et vous voulez nous parler de l'ingénieur du son qui...
Ah oui, oui, tout à fait. En fait, cette Kalinka, donc là, c'est les pièces russes que j'ai transcrites, en fait, pour quatre mains. Parce que c'est des œuvres populaires. Pour le coup, il n'y a pas de partition de piano. C'est chanté, orchestré. Et effectivement, on a eu quand même beaucoup de difficultés là pour le disque, parce qu'on n'avait pas de studio, on ne pouvait pas aller en studio
période COVID,
enregistrer.
Quoi.
Donc on a fait chez moi, avec mon Bösendorfer, que j'ai dû accorder. Enfin, et surtout, les fichiers pour envoyer, c'était par Internet. Hein, je disais presque par pigeon voyageur, parce
c'est
que
incroyable.
Des fois, l'Internet à la campagne, c'est une horreur.
Ouais.
Donc il fallait vraiment se débrouiller. Mais c'est vrai que j'aurais eu des pigeons voyageurs, j'aurais fait ça, hein, si j'en avais pu. Mais bon. Donc du coup, on a réussi quand même à faire ce CD. L'orchestre aussi, puisque je devais répéter avec l'orchestre à Zagreb, et ben on ne pouvait pas se voir. Donc ça a été aussi compliqué de faire le concerto. Donc on a mis cet extrait-là sur l'album. Là, on peut peut-être le passer d'ailleurs.
Lequel ?
Eh bien, c'est le concerto numéro 3... Non, pardon, c'est le concerto numéro 2 de Rachmaninoff, le deuxième mouvement, qui est sur la plage numéro 3 du disque, je crois.
Alors, je vais juste rajouter que, concernant cet adagio, eh bien, c'était pour chasser eh bien, les mauvais souvenirs. Le musicien Rachmaninoff eh bien, se réclimate doucement à la vie. Un homme qui venait eh bien, poindre à l'aube après une nuit peuplée de cauchemars.
Ah.
Tout est dit dans ce mouvement qui est extraordinaire.
D'accord. On va l'écouter. chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie, dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc je reçois Ludmila Guillemot, concertiste, et Jean-Noël Dubois. Envolée pianistique, le thème de l'émission. Donc là j'ai un message, Jean-Noël va peut-être nous en parler. Merci de ce beau passage avec les chœurs de la mer Rouge. Que veut dire le mot Kalinka ?
Ah, alors le mot Kalinka, je pense que c'est un mot d'origine russe. Alors les chœurs de l'Armée Rouge, ben, ce n'est pas les chœurs de l'Armée Rouge, c'était du piano. Mais c'est vrai que ça a été repris, cette chanson. Il y a eu beaucoup de succès par les chœurs de l'Armée Rouge. Mais ben, tous les Russes connaissent Kalinka, Kazatchok, enfin, et même des Français. Je pense que tous les morceaux qu'on joue... les Nuits de Moscou, enfin les cinq sont connus des Français. Enfin, moi, je les connaissais.
Hein. Alors justement, cette célèbre chanson qui fut parolisée et composée en 1860 par Ivan Petrovitch Larionov. Et c'est une chanson qui exprime la poésie, qui est amusante et surtout coquine.
Oui. En fait, Kalinka, il me semble que c'est l'histoire d'une... Ça raconte l'histoire d'une fleur ou des fleurs dans les champs... d'après ce que j'en connais. Hein.
Oui, oui, tout à fait.
Alors en fait, voilà, souvent c'est des histoires assez simples.
Assez simples, oui.
Et finalement, il y a une chanson qui se crée autour. Alors est-ce qu'il y a une danse, est-ce qu'il y a une cueillette, on ne sait pas. Et toujours est-il que ça fait un tube.
C'était en fait... Ça a fait un tube, c'était dans le milieu populaire, quoi.
Tout à fait. Voilà. Comme les tubes dans de Claude François, des fois c'est parti de malentendus.
Oui.
Et ça fait quand même des chansons mondiales.
Ouais, c'est ça.
Comme d'habitude,
My Way en,
voilà.
En anglais. Alors, Ludmila, vous êtes ambassadrice de la République de Montmartre. Un petit mot là, sur...
Eh bien, j'ai toujours aimé Montmartre, en fait. Hein,
ah bah, et... qui n'aime pas Montmartre.
Voilà, alors...
Moi, je préfère le mien.
C'est un peu magique, hein, Montmartre.
Ah, c'est complètement magique. Et qu'on me questionne, qu'aimez-vous à Paris ? Eh bien, moi, je dis, j'aime la butte Montmartre.
Ah oui.
Parce que la butte Montmartre, eh bien, a attiré de nombreux artistes à partir de 1870. Eh bien, par son charme, par sa lumière... Et surtout, ces bars.
Et son ambiance, les cabarets. Les cabarets.
Qui ont fait vibrer de nombreux artistes.
C'était d'ailleurs une commune à part de Paris, hein, Montmartre, au départ.
Totalement, on est dans un monde complètement magique. Mmh. Et surtout, notre maître Satie, Eric Satie, qui jouait tous les soirs dans la butte Montmartre et dans ce célèbre cabaret, le Chat Noir notamment.
Chat Noir, oui.
Et là, il y a eu de nombreux artistes.
Alors Satie, il faut savoir, il faisait Arcueil, le Chat Noir, c'est-à-dire 14 kilomètres, tous les jours à pied, matin et soir. C'était quand même assez hallucinant.
Ouais.
On ne savait pas qu'il était désargenté. Et on l'a su quand on a découvert son taudis à Arcueil. On a vu ses souliers délabrés, ses pianos retenus par des ficelles. C'était vraiment un monde...
C'était un monde à part. Hein,
exactement, Eric Satie aura sa petite chambre aussi rue Cortot à Montmartre. Hein.
Mais les artistes peintres qui ont œuvré à Montmartre, il y en a plein. Hein,
bien sûr.
Lautrec, il y a aussi Suzanne Baladon.
Ils n'ont jamais été milliardaires, ça se saurait.
La vie était difficile pour eux.
Mais l'art fait vivre, mais malheureusement, pas les artistes. Ça fait vivre ceux qui exploitent les artistes.
Pour moi, Montmartre, c'est un centre artistique mondial. Par rapport aux artistes, la vibration, la passion, le Moulin Rouge, la Belle Époque.
Alors là, l'ambassadrice de la République, c'est une association.
C'est une association qui parle de tout ce qui est à Montmartre, toute la culture. Il y a des réunions tous les mois à la crémaillère. Mm-hmm. Mais évidemment, aujourd'hui, est fermé depuis un an. Mais là, on se rencontre, il y a de la poésie, on parle des poulbeaux, il y a toute cette histoire qui est à Montmartre, hein, en fait. Hein. Et là, j'aime toute sa musique, toute sa folie, toutes ses folies bergères, les peintres, la poésie, la musique.
C'est voilà.
Un
poulbeau ? Parce que moi, je ne connais pas. Peut-être qu'il y a des auditeurs qui ne savent pas ce que c'est un poulbeau.
Bah, c'est toute l'histoire.
C'est un canard ? Moi, je connais le canard, mais...
Non, et puis il y a l'image... le dessin du poulpeau.
Ah, voilà. Puis tu dis toujours Montmartre, mais c'est le tien ou
est-ce que vous jouez
à Montmartre?
Est-ce que vous jouez à Montmartre?
Ah ben moi j'ai joué bon. À Montmartre, bien sûr. Maintenant, j'ai joué dans les cabarets, mais avant que... je jouais bien sûr à Place du Tertre, dans des petits cafés. Il y a des pianos.
Alors,
je
piano joue. Bar, vous faisiez du piano bar, du
piano, piano bar. Mais quand j'entends un piano ou je vois un piano, je rentre, je joue des mélodies de Paulette Darty, composées par Eric Satie. Et j'aime l'ambiance. Tout ce qui me fait vibrer à Montmartre, les peintres qui peignent des portraits, etc. Quoi.
Ouais, ouais. Et est-ce que vous
faites... C'est magique pour moi.
Et est-ce que vous êtes attiré par, je ne sais pas, mais c'est une question, tous les deux, est-ce que vous êtes attiré par le jazz?
Ah, bah, Ludmila, peut-être un peu moins que moi, mais j'aime bien
jazz.
Toutes les musiques. Donc j'ai pas
Glenn
de...
Gould, par exemple.
Comment?
Glenn Gould.
Ah, c'est j'aime pas du jazz. Son personnage, son... Mmh.
Glenn Gould, c'est pas du jazz, c'est du classique.
C'est du classique, oui, mais bon, il a pas fait du jazz aussi?
Ah, je crois pas, un petit peu, mais pas pour, c'est pas vraiment comme ça qu'il est connu.
Non.
Moi, j'adore Glenn Gould, les pianistes atypiques, il n'y a pas de souci. Le jazz, je suis un petit peu moins jazzy.
Donc on va dire Gershwin. Hein.
Dans le, ah
bah, j'aime beaucoup
c'est classique,
Gershwin. J'ai joué la Rhapsody in Blue pour 80, mais la musique jazz, pour moi, elle n'est pas aussi prenante que la musique classique en fait. Mais j'aime la musique jazz, bien entendu. Hein.
Bah, ça dépend laquelle. La musique jazz, quand elle est de la New Orleans, ça, c'est très prenant. Hein. C'est très justement cette espèce de souffrance qu'il y a dans cette musique. Moi, je suis un petit peu moins réceptif à la musique, un peu le jazz moderne, là, comme ils appellent ça, le free jazz, un petit peu, ça part partout. Un petit peu comme en classique, d'ailleurs, la musique contemporaine, j'ai vraiment du mal, à part certains compositeurs, mais c'est rare quoi, que je trouve que mon oreille éprouve une attirance pour cette musique. Voilà. Mais le jazz, oui, j'aime beaucoup. Errol Garner, enfin la musique d'avant les années 50, en fait, voilà. Dès que ça part un peu par assez loin en harmonie, ça me pose un petit peu problème avec mon oreille, en fait.
D'accord.
C'est comme
la
en peinture.
Hein.
Comme en peinture, hein, c'est ouais. Pareil. Hein. Dès qu'il y a un petit peu des formes bizarroïdes dedans, qu'il n'y a plus ces géométries, ce nombre d'or. Oula, j'ai ouais. Caressé le micro. Ce nombre d'or, etc. Enfin, il faut que ça parle, une œuvre.
Comme disait un de mes maîtres pianistiques, Aldo Ciccolini, après Debussy ou Ravel, la musique contemporaine ne m'exprime rien.
C'est contemporain, comme disait. J'ai plus. Mon prof disait, au lieu de dire Pierre Boulez et l'ensemble intercontemporain, il disait Pierre Boulquès et l'ensemble intercontemporain plus rien. C'est dire, bon, il ne faut peut-être pas exagérer. Ils ont fait aussi des recherches, bon, plein de choses qui font avancer l'écriture musicale. Mais bon.
Je pense qu'il faut avoir une
oreille
très aiguisée pour entendre cette musique dite contemporaine.
Ou pas aiguisée du tout, et être sourd, ça aussi. Hein, c'est pas les deux sont possibles, les deux extrêmes sont possibles. Enfin, moi, l'oreille intermédiaire, j'ai un petit peu de mal.
C'est exactement comme la peinture contemporaine. Quand vous voyez un point rouge, on se dit que c'est
pour
extraordinaire.
Aveugle. C'est un peintre pour aveugle. Mais vous savez, il y a un célèbre compositeur qui a écrit le Minute de silence, et c'est Varese.
Oui.
C'est ça, je ne sais plus.
Pierre-Henri.
Non, John Cage, il a écrit une pièce, c'est 4 minutes 15, et c'est du silence. Donc c'est vraiment pour des sourds, c'est une œuvre géniale.
4 minutes 66.
Le
il n'y a rien, il n'y a pas de...
Il n'y a rien, on arrive sur scène, moi je l'ai déjà faite. Hein. Donc j'arrive sur scène, c'est une œuvre qui est dans le programme, 4 minutes 66. 66, il faut déjà combler 4 minutes 66.
66,
hein.
Ça n'existe pas.
Alors, on se rend compte que le public commence à s'agiter. La première minute, il ne se passe rien, le pianiste, il ne fait rien, il joue, il mime, mais j'entends que le public s'agite et il ne tient plus 4 minutes 66, en fait. Hein. Parce que John Cage, c'était pour dire merde au public, en fait, hein, pour dire vous restez assis, vous ne bougez pas.
Non, pas merde au public du tout, c'était pour dire merde aux institutions un petit peu trop rigides, un peu comme Satie. Pas du tout le public.
Non.
Non,
c'était
non,
pour
non.
Jouer la provocation,
voilà.
En fait. Hein. Moi, je l'ai déjà faite, mais
le public adorait, en tant
j'ai hué dans la salle, en fait. Hein. 4 minutes 66, le public tient pas.
Bah non, le silence, c'est dur.
C'est exactement comme vexation.
Alors, ah oui, vexation de Satie. Alors ça, c'était avant.
Alors,
et en fait, c'est une mesure. Ça dure quoi? Même pas 10 secondes à jouer.
Ouais.
Mais c'est répété 487 fois. Donc en fait, ça dure 2 jours. Et dit-il, il a prévu des évacuations pour les pianistes, c'est-à-dire la petite chaise percée pour faire pipi. Parce qu'à l'origine, c'était fait pour être joué par un pianiste. Alors nous, on l'a fait
au
Téléthon.
La première mesure est répétée à l'infini.
Oui,
en fait.
Non, 494 fois, c'est vraiment précisé.
Normalement, c'est fait pour la jouer 24
alors,
heures avec 7 pianistes.
Si on la joue très vite, ça peut durer moins longtemps, mais les doigts se fatiguent. Et si on la joue très lentement, bah, ça dure 2 jours. Mais là, on tient plus, il faut la perfusion. Donc il y a une durée quand même précise.
Incroyable, ça.
Ah, mais Satie était très provocateur. Mais il y a des gens qui l'ont fait. Donc, ça prouve soit leur second degré, soit leur bêtise.
Ça a très, très bien marché. Il y a eu une foule d'admirateurs pour écouter cette œuvre-là. Mais à Angoulême, je pense que ça n'a pas pris.
Moi, je pense que Satie voulait la créer pour voir jusqu'où irait la bêtise des interprètes. Et il y en a qui l'ont pris au mot, qui l'ont fait.
Je suis pas... On va écouter le morceau numéro 1, Saison.
Alors oui, c'est en fait les saisons de Tchaïkovski.
Tchaïkovski, voilà.
C'est un compositeur qui a écrit le Casse-Noisette, enfin bon, des grands ballets. Mmh. Il a écrit aussi de la musique pour piano, qui est moins connue. Cette pièce est très connue puisque c'était en fait la musique du film L'Ours de Jean-Jacques Hano.
Ah d'accord. Okay.
Qui a été filmé dans les années 80.
Très beau, enfin,
c'est très beau film. Très beau film. Justement une musique très très nostalgique et très très... on va dire triste, oui, il y a toujours ce fond de tristesse, sauf dans la partie centrale là, qu'on va pouvoir écouter.
Et surtout ce chant plaintif qui fait partie eh bien, de cette Russie.
Tout à fait.
On va l'écouter. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie, dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc je reçois aujourd'hui Ludmila Guillemot, Jean-Noël Dubois qui vient de nous quitter à l'instant, et je reçois François Fournet.
Bonjour.
Voilà. Bonjour.
Que les auditeurs connaissent bien.
Voilà.
Donc François, je vais lui passer la parole tout de suite, puisqu'il vient d'arriver.
J'ai écouté Jean-Noël et Ludmila, et j'avoue que moi je suis émerveillé par la féerie des musiques qui sont données,
c'est fabuleux,
glissent. Et c'est pour ça que j'ai voulu...
C'est plein de vie.
En écoutant, grâce à Internet, à Ludmila, et avec des compositions de Liszt, un poème pour elle.
Ah, tant mieux. Je vais écouter ça avec grand plaisir.
Voilà.
Lorsque Ludmila joue sur son piano magique, l'espace devient plus doux. Des notes féeriques, ces gouttes cristal pur d'un ciel de soie sensible pour savourer l'azur. Délicatesse est la cible de l'harmonie où luit le visage de Liszt. En perle éblouie, elle glisse sur la piste qui mène à l'infini. Par lui, noblesse existe, son art pur est celui de l'amour qui insiste à guider vers l'infini. L'âme au précieux accord, lorsque Ludmilla joue, notre horizon s'enchante, nous livre ses trésors, ses notes scintillantes ont un parfum si doux, l'heure devient pétillante lorsque Ludmilla joue. Et nos cœurs se délivrent d'un univers trop fou pour que nous vivions libres, comme l'azur est doux et mon cœur s'enivre lorsque Ludmilla joue. Entre ces gammes vives, l'amour nous réunit. En mots, en moi, le bonheur s'active. Il pleut de l'infini.
Oh, c'est très beau, hein. C'est magnifique, je suis très émotionné par ces magnifiques.
C'est un poème qui a été composé spécialement pour vous.
Ah bien, écoutez, je vais le lire dans mes concerts, c'est extraordinaire.
C'est, voilà, il vous remet le poème. Beaucoup. Franchement, magnifique. Hein. François, félicitations.
Félicitations, hein. Magnifique.
Bravo.
Je vais le mettre en musique.
Disons que en écoutant, moi j'ai une particularité. Ma grand-mère était une danseuse russe et j'ai le sens du rythme profondément dans la peau. Je dis bien dans la peau parce que quand je danse, parce que dans mes spectacles, il m'arrive de danser, comme un des derniers qui s'appelle Dessous, mais je commence en dansant, eh bien, je ne danse pas, je dirais que je suis la musique à ce moment-là. Je suis dans la musique, je suis la musique elle-même. Tout mon corps vibre au rythme de la musique.
Ah oui, oui.
Et ça, c'est une passion. C'est une passion.
Vous accompagnez des danseurs, des danseuses, enfin des danseuses, des danseurs
Oui, j'ai pas eu l'occasion d'accompagner des danseurs, mais des chanteurs d'opéra, bien entendu. Mais la danse, pour moi, c'est féerique, c'est magique, c'est extraordinaire. Je pense que les spectacles, pour moi, de danse sont, pour moi, l'émerveillement. Hein.
Mais je pense que Lumia partagera cette idée. Pour moi, la musique est partout. La musique
Absolument.
Se situe dans la poésie dite. La musique se situe bien évidemment dans la danse, inévitablement. La musique se situe aussi dans la nature. Quand on entre dans une forêt.
Oui. Les chants des oiseaux. Hein.
Exactement.
Le vol du bourdon.
Absolument. Korsakov. Tout est musique. On pense musique. On entend les oiseaux rentrer dans les forêts. On s'imagine la musique. C'est la vie, en fait. Hein.
Là, j'ai une réponse là, pour Kalinka. Donc, un auditeur qui me dit c'est la baie rouge. Alors, Kalinka. C'est la baie rouge vive de l'aubier, un arbuste qui est très commun dans les jardins en Russie et en Ukraine. Voilà, on a une réponse.
Ah, c'est
donc moi, j'étais parti sur une fleur et c'est un arbuste. Voilà. Donc c'est un arbuste qui fleurit, en fait.
Voilà, tout à fait, c'est un arbuste qui fleurit.
Donc en fait, cette composition, ça raconte l'histoire d'un jardin.
C'est toujours autour des histoires d'amour aussi, des histoires poétiques. Hein.
Tout à fait.
Des fleurs, de la nature en fait. Hein.
La rencontre. Alors, Ludmilla, vous voyez, j'ai beaucoup par rapport avec Jean-Noël, par rapport à la musique. Et vous revenez d'un pays
Alors, on a été,
au Paraguay.
Oui, parce que cette tournée en Amérique du Sud, je ne voulais absolument pas l'annuler, puisque ça faisait quand même la 6e tournée annulée durant ce
oui,
Covid.
Ça et fait
donc,
un peu beaucoup,
Ça fait un peu beaucoup. Et j'avais besoin de retrouver un théâtre, un vrai théâtre, parce que malheureusement, je ne vais pas refaire le monde. Ça fait plus d'un an que tout est fermé. Et moi, j'ai fait 25 000 km pour retrouver un vrai théâtre. Au Paraguay, dans le théâtre un des meilleurs du Paraguay. Et là, je me suis retrouvé, mon identité de vibration, de rentrer dans retrouver des fauteuils, des fauteuils rouges, des rideaux rouges. Et enfin, un vrai théâtre.
Et un public.
Et un public.
Un public.
Un public
très important,
qui m'a manqué
public.
Énormément. Un public, un vrai public. Oui. Et là, j'ai retrouvé ma vie d'artiste. Si lointain possible, mais j'ai refait un concert à quatre mains et un piano solo avec Jean-Noël Dubois. Et j'ai repensé ma vie d'artiste et j'ai dit, voyageons, partir de la France, lointain si possible, et arrêtons ce massacre qu'on fait à la culture pour revivre des nouvelles émotions. Parce que là, c'est plus possible. Et là, j'ai retrouvé la soif de retransmettre cette musique classique. avec ce musique paraguayen qui était pour moi extraordinaire.
Oui, j'avais oublié de dire un truc qui nous est arrivé au Paraguay, c'est effectivement... excusez-moi, oui, je prends la parole parce que j'ai été quand même très scandalisé par les propos qu'on a eus sur Twitter concernant Mme Bachelot. Moi, je n'étais pas spécialement d'accord avec la politique, bien sûr, de culturelle. Mais franchement, là, j'ai trouvé que c'était d'une bassesse tout ce qu'on a vu. Des artistes qui postaient, s'ils disaient artistes, et qui postaient des insultes sur ce ministre qui était en fait hospitalisé. Je me sentais vraiment pas français. J'étais vraiment pas fier d'appartenir à la France. Je suis désolé d'avoir pollué un petit peu le débat, mais ça m'y a fait penser. Et j'étais vraiment très choqué d'avoir lu ses propos. Donc je souhaite un bon rétablissement à Mme Bachelot. Et bon, ben voilà, elle est derrière nous. Je sais qu'elle va pas nous nuire. Donc ouais. Voilà.
Ouais. Mais alors, moi, je rejoins Ludmila quand elle dit que nous, artistes, nous avons besoin de façon irrépressible du dialogue avec le public, de faire vivre sur scène une œuvre artistique, qu'elle soit musicale, qu'elle soit qu'il s'agisse d'une comédie, que ce soit une danse. On a besoin de partager la passion.
Et voir tous ces théâtres fermés hier à Pigalle, à Place Montmartre, tous ces cabarets tout fermés, pour moi, c'est vivre un enterrement, en fait, hein, et culturel.
Et comment s'est passée cette tournée au Paraguay?
Elle a été extraordinaire.
Vous avez fait tout le Paraguay
Non, mais le Paraguay est un petit pays. Hein,
oui, c'est
mais il y a deux grandes salles de concert et nous avons pu partager trois concerts sur la musique slave et la musique d'Eric Satie avec un nouveau public que je ne connaissais pas mais qui a vibré avec nous et nous avons aussi été à la rencontre des élèves des universités, des conservatoires. Nous avons fait aussi des ateliers pour les mourants et tout ça avec cette musique qui nous a pas été permise de transmettre toute cette année en France. Avec ces fermetures qui, pour moi, c'est la mort de l'artiste. Parce que moi, j'ai besoin de transmettre. C'est ma vie. J'ai besoin de vivre avec la musique et de transmettre ces émotions que j'ai en moi. Mmh. Parce que personne ne peut me convaincre que le contraire d'un artiste, c'est de transmettre.
Oui, c'est
ça.
Oui.
Et je ne peux pas vivre autrement que le partager.
C'est comme la circulation du sang.
Exactement. C'est dans les veines, en fait. Hein.
Voilà.
Et là, c'est pas possible pour moi, c'est la mort vivante d'un artiste, il ne peut pas transmettre son art. Je préfère jouer devant deux personnes que de faire un concert avec Internet. Excusez-moi, je préfère ressentir l'émotion d'un public, d'une personne, jouer pour une personne. Mais pour moi, ça a été une délivrance d'aller au Paraguay. Moi, je vous le dis, pour moi, ça m'a délivré de tout ce que j'avais en moi, de ne pas pouvoir exprimer tout mon art.
Beaucoup de public ?
Public, bien sûr, à 50%, parce que là-bas aussi, ils vivent aussi avec le confinement. On est arrivé juste avant la fermeture des théâtres. On a eu beaucoup de chance. Et on a pu faire ces concerts parce que le directeur, justement, de l'Alliance française et puis de l'ambassade nous a dit vous étiez à deux doigts d'annuler ces concerts parce que là-bas aussi, ils souffrent de la pandémie. Et nous avons pu vivre... et faire ces concerts qui étaient vraiment très loin de Paris quand même. On a fait 25 000 km aller-retour. On a failli y rester parce que ne pas pouvoir revenir non plus avec toutes ces frontières se fermaient les unes après les autres. Mais moi, j'ai pris ce risque parce que j'en avais assez de cette pandémie et j'ai dit non, stop, on arrête, on fait ces concerts, tant pis.
C'était prévu déjà.
C'était prévu, mais on aurait pu annuler. Mais moi, je ne pouvais plus cérébralement vivre encore ce carnage. J'ai voulu transmettre et vivre avec un autre public en Amérique du Sud. Et j'ai été très fier de faire ces concerts avec Jean-Noël. On a été ravis. On a passé un mois extraordinaire.
Et là, un autre concert, ça s'annonce pour le mois prochain.
Oui,
mai,
alors le mois prochain, on doit partir sur la Mongolie. Alors, évidemment, aussi un pays lointain. Et on est en train de regarder un petit peu les frontières qui se ferment les unes après les autres. Je vais tenter l'impossible pour pouvoir aussi vivre de mon art et transmettre. C'est comme ça. Il faut vivre avec et continuer à persévérer et vivre sa musique, en fait. Hein.
Et alors, au Paraguay, vous avez été reçu par...
Avec l'ambassadeur de France au Paraguay, avec les directeurs de la salle culturelle. On a été reçus comme des princes, faut quand même le dire. On a été choyés. Je veux dire, le public a été extraordinaire. On a fait énormément de dédicaces sur les albums. on a été réjouis de ce public qui était aussi en manque de concerts en vrai, avec des vrais artistes, puisqu'il faut savoir que c'était pour la semaine de la francophonie, mais le Liban, le Canada, la Tunisie, tous les pays qui étaient programmés ne sont pas venus. D'accord. Et nous, seuls résistants français, nous sommes venus et nous avons été les seuls Français à venir faire les concerts en direct. Donc évidemment, nous avons été extrêmement, applaudis par cette performance de venir déjà dans le pays. Hein, parce que croyez-moi que c'est une performance. Hein, d'arriver avec tous ces papiers, ces déplacements impérieux. On s'est déplacé, on est fiers de l'avoir fait. Parce que Jean-Noël me disait « Non, on va laisser pour l'année prochaine. » Mais moi, j'ai la rage. Je me suis dit « Il faut y aller. »
On la sent.
Voilà, il faut y aller. Il ne faut pas annuler.
Une battante.
Et donc, j'ai été fier d'y aller, en fait. Hein.
Félicitations.
Ah oui, tout à fait. Je me félicite et je suis ravi. Oui.
François.
On peut dire que grâce aux émissions de radio comme le Petit Journal des Beaux-Arts, on permet de faire passer cette passion, cette rage de vivre que l'on ressent chez Ludmila.
Oui. Je parle avec de nombreux artistes derrière moi qui ne peuvent pas s'exprimer et qui vivent cette pandémie très, très, très difficilement.
Ça devient difficile.
On avance en moi, plus il faut ouvrir les ces théâtres parce que le public et les artistes vont mourir de ne pas transmettre, de ne pas pouvoir s'exprimer. Il faut y aller maintenant. Il faut qu'on ouvre ces théâtres.
Ce sont des vrais métiers.
Et je pense que durant cette année-là, on a un peu oublié la culture, malheureusement. Hein.
Ouais. Qu'est-ce qu'on pense, François ?
Oui, j'invite d'illustrer tout ce qui a été dit par la définition de la musique. C'est un petit peu osé parce que chacun, évidemment, sa définition.
Il vit sa musique comme il veut.
Bien sûr.
Ben exactement. Oui. Chacun son ressenti. Alors moi, je pose la question, qu'est-ce qu'une musique ? Un bruit éclos en harmonie, ruissellement sonore pour luire en mélodie, la rencontre de notes pour un acte d'amour. Elle vit entre elles une danse sur la piste d'un rêve. Une musique née d'une source sensible s'élève afin que danse l'émotion. C'est un poème symphonique, une chorégraphie d'arpèges, de gammes, une ivresse sonore qui aspire à nous porter sur le dos d'une immensité. Elle possède deux ailes survoltées qui nous guident vers une voûte étoilée. La musique est le verbe ailé de notre intime humain, la grâce d'ouvrir une porte vers l'infini.
C'est touchant d'entendre tous ces mots magiques durant cette période. Pour moi,
qui nous font voyager.
On est transporté, ça nous fait voyager.
On est ailleurs,
a besoin de ces belles choses et belles écritures.
Et on a besoin d'échanger, parce qu'on est dans un monde relationnel. Même au-delà de les dimensions artistiques, nous sommes faits du relationnel. Et la relation entre la scène et le public, entre un piano...
Il y a un dialogue, il y a
des cœurs qui battent, des cœurs qui battent
c'est
à l'unisson.
Des pulsations
de la scène au public. Et ça, c'est la passion de vivre un art.
Absolument. Et ça ne peut être remplacé par rien d'autre que cette émotion du public avec l'artiste.
C'est comme au moment, moi je suis dans le monde de la peinture, mais quand ça existe, mais bon, les expositions virtuelles, c'est bon, peut-être par internet, tout ça, mais rien ne remplace d'aller voir de vraies œuvres dans un musée.
Parce que ce qui se passe dans un théâtre, l'émotion, ressenti, les battements, les applaudissements, on ne peut pas remplacer ça avec du virtuel.
Mais non,
théâtre ou la musique dans la salle de concert, comme l'opéra.
Ludmila, ce qui est passionnant, c'est qu'on peut dire que chaque soirée n'est pas la même. Chaque soirée est une aventure humaine, une aventure d'amour entre un public et ce que l'on donne.
Absolument. Quand nous, on fait le Festival d'Avignon, tous les soirs, quand on joue une pièce, par exemple, sur La Belle Époque et Montmartre, Eric Satie, tous les soirs, on rencontre un nouveau public Et puis,
est-ce que vous jouez différemment à chaque fois?
Absolument.
Ah, bien sûr. Ah oui, c'est
suivant
sûr.
L'émotion, suivant
comme
le
François,
public.
Comme François quand il fait une pièce de théâtre.
Absolument.
Chaque fois, il va l'interpréter.
Ah, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
Ce sont exactement les mêmes mots, mais il y a quelque chose dans le rapport avec les personnes qui sont en face de nous, le public, avec notre respiration, avec l'émotion. On partage une émotion commune au sein d'un spectacle.
Et surtout le retour du public aussi.
C'est
on
ça.
Ressent aussi plus d'applaudissements, plus d'écoute du public. Et il va avec vous, on ressent dès le premier rang quelque chose. Et là, on est en fusion
en
avec
fait,
eux.
Tous les jours, c'est différent.
Totalement.
Et j'ai envie de dire qu'il y a différents temps dans un spectacle. Qui s'ajoute dans un spectacle de théâtre.
Il y a différents tempos aussi.
Il y a le début, il y a la grande émotion parce qu'il y a l'ouverture.
Absolument.
L'ouverture, c'est très important. Alors là, il y a une question d'approche par rapport à celui qui nous écoute ou qui nous regarde. Puis après, il y a l'harmonie qui s'installe. Et après, la fusion.
Absolument.
Je veux dire
et après, l'explosion, évidemment, des personnes qui...
C'est l'apothéose après, le
voilà,
final.
Bien sûr.
Je dois dire, François fait des pièces de théâtre accompagné d'un musicien, un très bon guitariste.
Oui, Rémi Boisbesseau.
Rémi Boisbesseau.
Moi j'aime bien.
Que j'ai reçu d'ailleurs.
J'aime bien jouer avec quelqu'un qui maîtrise la musique. La musique et les mots, pour moi, c'est indispensable.
Ah bah la musique et les mots, ça fait qu'un en fait. Hein.
Oui.
Ça fait qu'un, c'est une union parfaite. Hein. Et je pense que comme avec Jean-Noël, on n'a pas besoin de répéter. C'est la musique qui va en improvisation avec les mots. C'est la poésie en fait.
Et moi, parfois quand je danse, je ne danse pas souvent, je ne suis pas vraiment un danseur, mais quand je danse, j'ai l'impression que mon corps est un ensemble de mots qui s'accordent à la musique. Chaque geste est un mot.
Absolument, tout est dit.
Chaque
ça,
mouvement.
C'est la technique. Ouais. Tous les arts se mélangent.
Ah oui, ça s'interpénètre. Il y a vraiment une fusion.
Ça se transcende.
La musique, la poésie, la danse se rencontrent partout. Dans n'importe quelle dimension artistique, dans la peinture également, dans le mouvement.
C'est la transcendance du dessin, de la technique, de l'artistique.
Oui, tout à fait, la danse des couleurs. Puis le dessin, la forme, les perspectives. Il y a une danse aussi dans le gestuel du
le pinceau danse.
Du crayon.
Le pinceau danse sur la toile, bien sûr.
Bien sûr, oui, tout à fait. Oui.
Une chorégraphie du pinceau, c'est intéressant pour...
on devrait l'écrire. Bien sûr, quand on interprète une œuvre de Debussy, on s'imagine les tableaux.
Oui.
Ça fait corps à corps avec la musique et la peinture. On s'imagine, moi je m'imagine toujours quand j'interprète des œuvres de la musique contemporaine comme Debussy, avec Claude Monet, Manet, tout ça c'est en vibration avec mon corps en fait.
C'est pour ça que moi je n'aime pas...
François,
je ne peux pas dissocier moi les deux arts.
Je ne pourrais pas m'exprimer en disant je dis de la poésie, mais je vis de la poésie. Parce que quand je suis sur scène, il faut de façon indispensable que je sois la poésie. Pas forcément la mienne, ça peut être Arthur Rimbaud, ça peut être Verlaine, mais à ce moment-là, il faut que je sois la poésie de Verlaine, de Rimbaud ou de moi-même. Mais c'est indispensable pour faire passer les mots, pour faire passer l'émotion.
Absolument.
Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc je reçois Ludmila Guillemot, j'ai reçu tout à l'heure Jean-Noël Dubois et maintenant il y a François Fournet qui est parmi nous. Et je voulais poser une question à Ludmila. Est-ce que vous avez fait la Rogue d'Anteron ?
J'ai déjà joué quand j'avais 19 ans, 20 ans. J'ai fait deux récitals à la Rogue d'Anteron et après je ne suis pas revenue parce que justement dans les programmations qui sont en août, où je suis toujours en tournée à l'étranger et puis avec le Festival d'Avignon. Donc
là c'est que du piano partout, dans les rues il y a du piano.
Oui, tout à fait. Au moins ce sont des villes qui vivent avec le piano.
Et
il y a aussi le festival à Châteauroux où dans la période du mois d'octobre, il y a aussi un festival de piano où dans les bars, dans la rue, tout est piano. Et je pensais même les musiques qu'on écoute dans le marché, ils passent des œuvres pianistiques et c'est important qu'il n'y ait pas que la musique moderne, il y a la musique aussi pianistique, classique. C'est important d'écouter d'autres musiques et que ça devienne toujours aussi populaire la musique classique en fait.
Et c'est ouvert à tout le monde, par exemple
Maintenant, ils ont fait aussi une programmation jazzée, aussi un peu plus. Il n'y a pas que la musique classique, il y a aussi la musique. Il s'ouvre à d'autres horizons, et c'est pas mal non plus. Il y a la musique baroque, la musique dite classique. C'est important d'ouvrir d'autres horizons.
J'aimerais poser une question à François. Quelle est l'approche des jeunes d'aujourd'hui à la musique classique? Comment ressent-ils? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il y a une évolution?
Oui. Je pense qu'il y a une évolution. Il faut dire que les conservatoires sont complètement pleins. Les conservatoires de la musique classique sont complètement pleins. Et l'approche de la musique classique, je pense qu'il y a une approche par rapport aux enfants qui vont très tôt à la musique dans les conservatoires.
Oui. Et alors, est-ce que les enfants sont... aussi acharné que vous, les enfants maintenant?
Moi, je pense que la musique chez les enfants n'est peut-être pas aussi innée. C'est-à-dire qu'ils sont... ils ont d'autres arts, c'est-à-dire ils ont l'Internet et d'autres choses qui déconcentrent de l'art pianistique, c'est-à-dire l'apprentissage d'un instrument. Ils ont beaucoup de distractions. Et ils n'ont pas assez de temps ou de passion pour un instrument, en fait.
Leur approche est différente, c'est vrai.
Est différente.
Actuellement, il y a beaucoup de distractions hors piano, quoi. Je veux dire, il y a le sport.
Il y a beaucoup de choses qui font que l'instrument il n'est pas assez dans leur vie. Ça passe en second plan.
Ouais. Mais est-ce que dans la masse des enfants, est-ce qu'il y en a un ou deux qui...
Bien sûr, il y en a. Il y a toujours des élèves passionnés, des gens qui aiment la danse, les jeunes rats de l'opéra, par exemple, qui vont passer beaucoup de temps dans ces écoles qui sont très encadrées à danser et à apprendre un art comme la danse classique est un art très difficile.
Très.
Il faut commencer très jeune, les jeunes rats à 7-8 ans. Mais là, ce sont vraiment des jeunes qui ils ont ça dans les veines, en fait. Ce sont des passionnés, déjà.
De tout petit, en fait.
Mais actuellement, pour les mettre au piano, un instrument... avant, j'enseignais dans un conservatoire, mais j'avais absolument pas de patience parce que j'avais des élèves de 6-7 ans. Au bout de 5 minutes, ils avaient mal aux doigts, ils n'avaient pas assez de temps pour travailler. Alors, avec l'ère Internet, le téléphone portable, etc., ils ont trop de distractions et ils n'ont pas assez de temps pour vraiment un travail comme le piano qui demande... François. Beaucoup de pugnacité et puis de travail.
De travail,
oui. Là, je crois qu'il y a une histoire de concentration avec les enfants, mais aussi, à mon sens, à partir du moment où un enfant trouve de la passion dans ce qu'il écoute, s'il aime vraiment la musique, à ce moment-là, la concentration va venir et il va s'adonner à la musique.
Oui, mais il y a la famille aussi qui est derrière.
Ah oui, c'est très important.
La famille, c'est très important.
La culture familiale.
La culture familiale aussi, il faut être baigné dans un contexte familial qui écoute aussi de la musique classique. Mais aujourd'hui, moi, j'ai vu aussi au Paraguay que les jeunes sont beaucoup, je veux dire, dans cette musique qui bouge, qui tambourine et pas assez, voilà, qui fait du bruit, mais pas assez dans la musique classique. Et heureusement que nous, artistes, on se déplace et on peut. Jean-Noël a donné des masterclass avec des élèves du conservatoire qui n'ont même pas des partitions. Il a passé des nuits à écrire des partitions de Liszt et de Chopin pour essayer qu'ils puissent travailler dans des vraies partitions. Parce qu'ils font tout d'oreille, mais ils apprennent mal. Parce qu'il manque une infrastructure et aussi des partitions. Ah oui. Et donc nous, artistes, on a besoin d'aller enseigner avec ces masterclass qu'il existe des vraies partitions pour étudier la grande musique, la classique.
Vous avez fait de la lecture à vue ?
Oui, j'ai fait de la lecture à vue, mais Jean-Noël, comme il a eu l'oreille absolue, il a pu écrire, il a passé ses nuits à écrire de la musique pour eux, pour qu'ils puissent, quand on allait repartir, vraiment étudier de la vraie musique écrite, parce que la musique classique est écrite.
Et comment on sait qu'on a l'oreille absolue ?
Ça c'est aussi inné, je pense qu'on écoute et on peut reproduire la musique tout de suite, au coma après.
C'est la démonstration.
On est né comme ça, en fait.
Dès qu'on entend,
dès qu'on entend un morceau de musique, la capacité de reproduire immédiatement ce morceau.
Oui, d'accord, ok. Chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie, dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Je vois que François a un poème à nous lire.
Oui, un poème assez court, mais qui, voilà, qui est un petit mot, je dirais, une pincée de mots d'amour pour la musique. Ne dites rien. Une note vient de parler. Une note de grâce, une note légère, mais le tout premier présent d'un mot de symphonie. Comme une bulle d'écume annonce la première vague mélodique, comme une feuille indique le tout premier frisson de l'arbre, comme un bourgeon promet la venue du printemps. Une note, mais ne dites rien, plus rien du tout. Je savoure l'entrée de l'harmonie.
Des textes extraordinaires.
Des textes extraordinaires, François, et toujours.
Ça m'émeut plus profond de moi-même.
Bah, c'est le meilleur remerciement qu'on peut me faire.
Ah non, c'est vraiment c'est voilà, très très beau. J'adore la poésie, en fait.
Mais la poésie et la musique sont deux sœurs presque jumelles.
Absolument. Oui. J'ai composé un spectacle qui s'appelle Les oiseaux poétiques.
Ah, vous composez aussi.
Non, et j'ai choisi les œuvres pianistiques qui portent le nom d'oiseaux, entremêlées de textes de poésie, justement, des oiseaux.
D'accord. Oui, ok. Là, j'ai un message. Bonjour à tous. Il s'agit de 4 minutes 33 et pas 66. Les minutes sont 60 secondes. Kalinka, selon Internet, signifie petite baie d'aubier. Bravo aux interprètes.
Ah oui.
Ah bah merci beaucoup. Hein. Donc, 4 minutes 33, tout à fait. Hein.
4 minutes 33. 4 minutes 33, d'accord. Alors, bravo aux interprètes.
Voilà. Ah bah, merci beaucoup hein, pour les auditeurs
beaucoup,
de Radio Courtoisie.
Pour parce que
est-ce que Kalinka se danse?
Absolument.
Ah oui, ça se danse.
Oh, oui.
Oui. Oui, ça, oui. Ça... Bah, en fait, beaucoup de musique russe se danse.
Oui, oui.
Ah, la danse du sabre, ça se danse. Kalinka... Bah, beaucoup de musique russe se danse. Hein. Ou alors, ça peut être Docteur Jivago. Bon, ça a été composé par Maurice Jarre. On pourrait dire, bon, c'est fait avec la balalaïka. À l'origine, il a mis 24 balalaïkas pour composer ce morceau. Et on peut le danser aussi.
Même la danse du sabre,
qui
fait partie de l'acte final
du
ballet Gaïanek. Et ouais, ça se danse aussi.
Ça
hein.
se danse aussi. Mais je reviens à Docteur Jivago, je pense qu'on peut même le danser. Moi, je ne connais pas trop, mais bon, je pense une valse, quoi. Ça pourrait s'apparenter
à une... De toute façon, toute musique peut se danser
à une valse,
part.
Je pense, Docteur Jivago.
Toute musique peut se danser, à mon sens.
Oui, oui. Mais les musiques russes, c'est vrai que... Les Russes dansent beaucoup, en fait.
Absolument. Et puis toutes les musiques russes, il faut penser danse à la base,
oui,
en fait.
Oui, c'est danse. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Et... Bon, quand on est jeune russe et qu'on danse, bon, on est accroupi sur les talons, on lance les jambes en avant.
Oui.
Bon, il faut être jeune.
Bah, j'ai vu Michel un jour danser le Katachok.
Qui, moi?
Ah, c'est très impressionnant. Voilà. J'étais ému, je tremblais.
Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour danser, ni faire de la musique. Je pense qu'à chaque âge, on fait sa danse avec passion, en fait. Hein.
Ah oui, tout se fait avec passion. Et à partir du moment où la passion passe, l'art passe et peut être donné. Et se transmet.
Absolument, se transmet, je veux dire, avec le public. Hein. Je reviens toujours au public parce que c'est
le public
qui nous
transporte. C'est très important,
le public pour vous. Parce que c'est le public qui nous transporte et il nous manque terriblement. Hein.
Et puis, à partir du moment où on est vrai en musique, en danse, en comédie, en théâtre, à partir du moment où on est vrai, eh bien, on est vrai pour le public le ressent. Et il y a un vrai dialogue à ce moment-là.
Absolument. Moi,
je prends le mot du dialogue. Oui.
Absolument. Quand moi, j'interprète une œuvre, je mets tout ce que je peux mettre en moi, mais je sais que le public, quand il sort d'un de mes concerts, il reste, je veux dire, il y a une transe qui se passe, mais il reste pas insensible. Oui. Il y a une émotion et puis ils ont des vibrations dans le corps et ils me disent ça à la fin du concert et pour moi, j'ai fait un très bon concert en fait.
Il y a une question parce que vous êtes pianiste et en fait à laquelle on
peut pas faire. Absolument.
C'est les mains. Les mains.
Oui.
Est-ce que vous pensez, faut pas avoir un accident aux mains.
Non, mais j'y pense pas. Hein, comme ça,
pas.
J'ai jamais eu d'accident
comme
aux mains.
Comme ça, vous n'y pensez pas.
Voilà, pas d'assurance ni rien de tout cela, et je continue ma vie sans penser à tout ça. Sinon, on vit plus. Hein. On traverse la rue, on se fait écraser. Hein.
Là, j'ai un message. Donc, vive le théâtre français et parisien. Les théâtres et les salles de concert vont réouvrir et les spectacles indépendants de plus belle. Gardez courage. Merci, belle émission.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
On a besoin de, comme je répète, de ce public tous les jours et de revivre à Paris avec tous ces beaux théâtres, tous ces ballets et cette ville de Paris qui est si culturelle et de par le monde et qui représente eh bien, la musique haut et fort.
L'émission touche à sa fin. Oui. Hein, je voulais savoir où on peut se procurer votre album.
Voilà. Eh bien, il est parti partout, dans tous les disquaires, à la Fnac, dans toutes les plateformes de téléchargement.
Il s'appelle comment?
Alors, il s'appelle Parfum d'escale, danse et air slave.
Alors, répétez.
Donc, danse et air slave, parfum d'escale. On le trouve donc avec le label Gallo. Nous avons le label Gallo qui est un label indépendant de la Suisse romande. Et on le trouve donc partout, dans les disquaires, dans mon site internet. Hein.
Sur votre site, dites votre site internet.
www.ludmilla-guilmaud.com. Même si vous tapez pianiste rebelle au 9 piano, vous me trouvez. Il y a le disque dans toutes les plateformes de téléchargement et dans toutes les disquaires de par le monde, à la Fnac notamment.
Rebelle au 9 piano, c'est vite.
Oui, parce que 9 pianos, j'ai chez moi et chaque.
Vous avez 9 pianos chez vous?
Oui, et puis mes 9 pianos sont mes 9 maris en fait. Hein. Voilà. Hein.
Vous avez 9 pianos chez
voilà,
vous.
Et chaque piano exprime une de mes rencontres dans un pays. Et voilà, ce sont mes maris qui me consolent toutes mes nuits.
Tous des pianos à queue ou...
Non, des pianos droits, des pianos à queue, voilà.
Ah, d'accord, ok.
Ce sont mes passions, hein, c'est mes parcours de vie. Hein.
Ouais. Donc, chers auditeurs, vous êtes sur Radio Courtoisie, dans le Libre Journal des Beaux-Arts. Donc, aujourd'hui, le thème de l'émission, vous l'avez bien compris, c'était envolée pianistique. Donc, j'ai reçu Ludmilla Guilmaud, Jean-Noël Dubois, donc tous les deux concertistes, et François Fournet, pour la poésie, avec ses merveilleux poèmes, ses merveilleux
mots.
Merci
François Fournet, ça m'a énormément enthousiasmé d'entendre ces plus belles poésies que je n'avais pas entendues depuis longtemps.
On va donner le dernier mot et la dernière note à Ludmilla.
Et permettez-moi que je vais écrire la musique sur cette poésie lorsque Ludmilla joue.
Ah, sur la poésie
de
François.
Je vais la mettre en musique, parce qu'elle m'a émerveillée.
Alors, François? Ça, c'est une très belle récompense.
C'est de l'émotion, c'est sûr.
Et je la ferai passer à Radio Courtoisie.
Merci, Lumina. Et merci au petit Journal des Beaux-Arts.
Et merci aussi à Jean-Noël Dubois, mon partenaire de
D'accord,
duo.
Merci à Jean-Noël Dubois qui... C'est la place à François. Oui. Dubois, donc, oui. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Et au revoir.
D'entendre le Libre Journal des Beaux-Arts créé par Christian Langlois, dirigé par Michel Colombin, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mardi 13 avril 2021 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît et Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.